Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, pas moins de 3 coups de cœur ciné encore aujourd'hui qui vont vous être proposés avec dans une poignée de secondes notre spécial L'Astronaute. Nicolas Giraud et Anne Charrier vont venir nous rejoindre. En fin d'émission, on va parler également du très beau film de Steve Acheppo intitulé Le Marchand de Sable qui sort mercredi. À cette occasion, le réalisateur Steve Acheppo accompagné de Ophélie Beau et de Moussa Mansali seront nos invités exceptionnels. On va parler également de la sortie du film Juste Ciel de Laurent Tirard. À cette occasion, Guylaine Londez, Louise Malek et Valérie Bonneton seront avec nous. Nos coups de cœur télé cette semaine qui seront consacrés notamment à Cosmic Love pour Prime avec Lolita, une des dernières candidates arrivées dans l'émission à partir du 9e épisode. Et puis nous aurons le plaisir également de recevoir aujourd'hui Lannick Gautry à l'occasion du lancement de L'Île Prisonnière ce soir sur France 2. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer, on démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film L'Astronaute de Nicolas Giraud, réalisateur bien connu dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine et principalement en Charente-Maritime. On a l'occasion de parler de ton deuxième film, L'Astronaute, Nicolas, avec un grand plaisir en tout cas. Merci d'être avec nous.
Merci, ça me fait très plaisir d'être avec vous aussi.
Puisqu'on va faire une interview entre Charentais aujourd'hui, on a une régionale de l'étape aussi, bien connue en Charente, Anne Charrier évidemment, avec un parcours de comédienne absolument incroyable. Bonjour Anne et merci d'être là aussi.
Merci, merci à vous de nous accueillir.
C'est toujours un plaisir. L'Astronaute en plus, c'est un film dont on a eu l'occasion de voir au Festival d'Angoulême. Et il est vrai que là, on raconte l'histoire d'un astronaute qui en fait a raté sa place, puisque c'est Thomas Pesquet qui est parti à sa place, mais il n'a pas dit son dernier mot, puisque tu racontes l'histoire de Jim Desforges que tu incarnes dans ce film.
C'est vrai, Jim Desforges a terminé 3e sur 4500 candidats. Comme dit le personnage de Mathieu Kassovitz, celui qu'on ne garde pas. Et en effet, il est incapable de renoncer à son rêve, qui est d'aller dans l'espace. Et il décide, dans le plus grand secret, de développer son propre lanceur, c'est-à-dire une fusée, et de réaliser le premier vol spatial habité amateur de l'histoire.
Et là, évidemment, ça va être un parcours semé d'embûches, on se doute bien. En tout cas, que ça va pas se dérouler comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Nicolas, de faire un film sur ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que dans le domaine du rêve pour toi, justement, on va dire l'espace et les astronautes?
Merci pour cette question, déjà, parce qu'elle me plaît. Au-delà de l'espace, je suis surtout un fou de cinéma. Et selon moi, l'espace est porteur d'espace, de dimensions, d'invisible, de lumière, de cosmos. Et c'était l'endroit idéal pour exprimer ma passion du cinéma. Finalement, la fusée de Jim, c'est aussi mon film. Et j'aime bien la mise en abîme. Donc du coup, je partage les aventures de la pensée, de la fabrication, qui est celle de faire un film. Donc c'était le lieu idéal pour moi. Oui, c'est vrai que c'est un rêve, c'est un fantasme aussi. Je crois que j'avais envie de mettre une combinaison d'astronautes, parce que je suis fou de Christopher Nolan. Quand j'ai vu Interstellar, je me suis dit, je veux faire ce genre de voyage. Et grâce à L'Astronaute, je peux utiliser les outils du cinéma. Le grand écran, l'expérience en salle, le sound design. Tu vois, tout ce qu'on ne peut pas vivre dans un téléphone portable ou dans une télé, même si tu as une super télé chez toi et un super son, tu n'auras jamais cette expérience visuelle et sonore que tu as en salle de cinéma.
S'il y a bien un film à voir sur grand écran, effectivement, c'est bien L'Astronaute. c'est vraiment un film qui se déguste sur un grand écran.
Je crois. En tout cas, avec mon équipe, je m'y suis employé. Oui, je rêve de grands écrans. Et en plus, je rêve de grands, grands écrans. C'est-à-dire que plus la salle est grande, plus je suis heureux. Parce qu'en plus, d'aller dans l'espace, ça te permet d'être encore plus intime avec les individus qui restent sur Terre. Et on est tous interconnectés les uns les autres. Et mon job, c'est de sentir ce frémissement qui fait que d'un seul coup, on peut être proche d'une personne.
C'est un film que je verrais bien, moi, peut-être dans une version plus raccourcie, faite exprès, dans un parc comme le Futuroscope, sur des écrans d'une hauteur de 19 étages, enfin un truc de dingue. Mais c'est un film, en tout cas, que je verrais bien projeté sur ce type d'écran un peu exceptionnel.
En tout cas, le décollage, peut-être. Je veux pas trop en dire, parce que les gens vont découvrir le film. Ouais, si on peut faire vivre le vrombissement des moteurs d'une fusée, c'est toujours très émotionnel. Je crois que quand l'être humain arrive à s'arracher de la planète, même si je suis un fervent défenseur de la Terre, des racines qui poussent vers le ciel comme ce chêne là sous lequel je me trouve, si ça peut faire du bien aux gens, ouais, allons-y. Faisons un extrait du film sur 19 étages, ouais, ça me va.
Anne, on va parler de ton rôle en quelques mots. Vas-y.
Alors, moi, je joue la chef de la sécurité d'Ariane Group, qui sait que quelque chose ne tourne pas rond, puisque elle pressent que quelque chose se passe à l'endroit de Jim DeForge, qui par ailleurs est un ingénieur plutôt très doué, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe et elle va effectivement se rendre compte que quelque chose lui échappe et le traquer jusqu'au moment où je ne dirai pas à la fin du film.
Non, il ne faut pas, mais elle va pas voir d'un bon œil en tout cas ce qu'il veut faire.
Elle va le traquer, c'est un peu l'empêcheuse de tourner en rond de l'histoire.
Qu'est-ce qui t'a plu justement dans cette histoire, toi, qui t'a fait dire oui? Outre que c'est un réalisateur charenté.
Oui, alors il y a ça, bien sûr, mais je fais pas mes choix en fonction de l'origine des réalisateurs. Mais
bah, vu ton palmarès, oui, c'est sûr.
Non, mais il se trouve que Nicolas est... Alors, il y a déjà une rencontre humaine. J'ai rencontré Nicolas, il y a quelque chose de très intense et de très habité chez lui. Et puis, il y a cette histoire merveilleuse autour du rêve et de tout ce qu'on met en œuvre pour accéder à ses rêves, même quand tout le monde nous dit que ça n'est pas possible. Et nous, inévitablement, les gens qui ont choisi ces métiers-là, artistiques, on a été entourés de gens qui nous disaient que ça n'était pas possible. Donc, cette dimension-là m'a parlé immédiatement.
Pour toi, Nicolas, ce qu'accomplit Jim dans le film serait dans l'ordre du possible à un moment donné, de pouvoir construire sa propre capsule. Est-ce que tu penses peut-être que dans des années futures, dans l'immédiat certainement pas, mais est-ce que tu penses que c'est encore de l'ordre du fantasme ce que réussit à accomplir ou pas Jim DeForge dans le film?
Absolument possible. J'aime le réalisme. L'astronaute n'est pas du tout un conte. Je me suis associé à Jean-François Clairvoy, qui est un des plus grands astronautes français et européens, qui allait trois fois dans l'espace. Dieu merci, Ariane Group a été sensible à mon projet et nous a ouvert les portes. Donc, évidemment que c'est possible. À partir du moment où tu t'investis pleinement, où tu es capable de patience, de résilience, et que tu mets toute ton énergie, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses, que tu veuilles devenir le plus grand pâtissier, l'inventeur d'un nouveau système de plomberie, ou en l'occurrence de faire ce genre de film, c'est possible. Maintenant, faut être conscient qu'il va y avoir des difficultés, qu'il va y avoir des moments de vide, qu'il va y avoir, comme le disait Anne Charré à l'instant, des gens qui vont dire « mais n'importe quoi, ça n'existe pas, une fusée de 12 mètres, ou on ne peut pas faire ça, ou ce sont que les Américains qui font ça, et gna 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 ». Non, tu peux tout faire. Je peux vous dire que je viens de loin, j'étais apprenti en maçonnerie à 16 ans, je suis allé en Guyane française en 1995, invité par ma marraine qui vivait là-bas à Kourou, et son voisin était ingénieur en sauvegarde sur Ariane 4, ça je peux pas le prévoir, il se trouve que c'est son voisin qui se lie d'affection pour moi et qui décide de m'emmener chez Ariane à cette époque.
Qui transmet le virus du coup?
Non, pas du tout, mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu un homme attentif à un jeune garçon. Un jeune garçon qui avait déjà des rêves dans les yeux, mais j'étais à des années-lumière que 25 ans. 25 ans après, j'allais faire un film sur un gars qui fait une fusée. Je parle de ça, la fusée, c'est la métaphore absolue. Mais je le redis, tout ce que tu veux, si tu t'en donnes les moyens, c'est possible. Et c'est à la portée de chacun. Et c'est surtout ça que je veux partager. Et ce que réussit Jim surtout, c'est pas simplement d'aller dans l'espace, mais c'est peut-être d'apporter de la sérénité, de la joie, de la paix dans sa famille. Il répare les choses. D'un père blessé, la relation du père de Jim avec son propre père, donc le grand-père de Jim, n'était pas satisfaisante. Mais parfois les choses passent par les petits-enfants, etc., etc., etc.
On écoute la bande-annonce. L'astronaute, ça sort ce 15 février au cinéma et on revient juste après.
Je vais rencontrer Alexandre Ribot.
Pense à autre chose, mon gueule. Quand tu te réveilleras, tu verras que tu auras passé ta vie à courir après quelque chose d'impossible.
C'est un des plus grands astronautes français. Et lui, il croit en moi, il croit en mon projet.
C'est pour parler de là-haut, je suis toujours partant.
Ça fait 8 ans que je travaille sur cette fusée.
Du beau travail ? Enfin, 2 ou 3 détails près.
C'est-à-dire ?
Voilà, prendre des risques, c'est une chose. Pensez que tu vas y arriver seul.
J'ai un ami qui me donne un coup de main. Et puis, il y a ma grand-mère.
T'as besoin d'un mathématicien, au moins pour tout vérifier et suivre le vol depuis le sol.
Jim, il y a quelqu'un qui veut te voir à l'accueil.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Travailler sur votre projet ?
Bienvenue dans notre base secrète.
Allez, de retour pour notre spécial L'Astronaute. Le film sort en salle ce 15 février. On va continuer à en parler de ce film avec Nicolas Giraud, le réalisateur, et Anne Charrier qui sont avec nous. Nicolas, comment on prépare un film comme ça ? On va rencontrer justement des astronautes. Comment on fait pour préparer un film avec... C'est hyper ambitieux de faire sur ce domaine-là.
On remonte ses manches, on se concentre, on essaye d'être ouvert, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis on essaye d'avoir autour de soi des gens qui te comprennent et qui vont apporter leur spécificité, leur talent, qui vont nourrir et porter le tien. Voilà, ma chance dans tout ça, c'est d'avoir un grand producteur qui s'appelle Christophe Rossignon, qui est le patron de Nord-Ouest et qui, par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas au hasard, est passionné d'espace. Et quand je me pointe, moi, avec mon histoire de ce jeune homme qui décide de faire une fusée artisanale, il me regarde et me fait « t'es sérieux ?» Je dis « oui, très ». Et il me dit « top, là, je produis le film ». Et grâce à lui, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pu rencontrer Jean-François Clairvoy, qui lui encore a dit « waouh, j'aime l'axe avec lequel tu souhaites aller dans l'espace ». Et après, c'est un long travail d'écriture que j'ai partagé avec Stéphane Cabel, qui est mon co-scénariste, que je salue. Et puis, le chef opérateur, Renaud Chassin, qui est un homme aussi délicieux que... Enfin, je l'adore, quoi. Tu travailles avec tout le monde comme ça. Je salue toute mon équipe. Je pense à Superpose, Gabriel Le Gueuleux, qui est mon compositeur, qui m'a permis de transcender l'image et le son.
C'est les personnes qui t'ont permis de faire exactement le film que tu voulais, que tu attendais.
Oui, je vais pas mentir. Anne pourrait en témoigner. Je suis intense. Je vais pas faire semblant. Je suis pas en train de chuchoter sur mon plateau. J'ai une idée très précise du son, du cadre, de la tonalité d'un acteur, de la maille qu'il va porter, de la couleur des rideaux, de la couleur du mur, du givre sur l'herbe. On va pas se mentir. Maintenant, tout seul, je fais rien. J'ai besoin des autres. Comme je le disais, c'est un travail d'équipe. J'ai besoin et me réjouis du talent des autres. Si j'écris pour une femme comme Anne Charrier ou quelqu'un comme Hippolyte Girardot ou Mathieu Kassovitz ou Hélène Vincent, c'est que je sais que je peux avoir confiance en eux, en leur intelligence, en leur réponse. Et moi, je suis juste là pour faire danser les choses. Voilà, les articuler.
Qu'est-ce qui t'a plu, Anne, justement, quand t'as lu le scénario, toi ? Tu t'es dit quoi en premier ?
Ah ben, je me suis dit ce que je te disais auparavant, c'est-à-dire que cette histoire-là, c'est une métaphore de notre métier aussi. Et puis, c'était de participer à cette aventure-là. C'était de faire partie des talents que Nicolas avait choisis. C'était une équipe de fous, il y avait quelque chose d'intrépide dans l'aventure. Et moi, j'aime bien l'intrépidité d'une aventure.
C'est presque le rêve de tout enfant, l'espace. Aujourd'hui, quand on voit Thomas Pesquet, les étoiles qu'il met dans les yeux de milliers, de millions de personnes aujourd'hui, c'est un domaine qui fait rêver. S'attaquer à un domaine qui fait rêver, automatiquement, c'est s'adresser au plus grand nombre.
Exactement. Donc, et puis, c'est ce panache-là, c'est se dire, on y va, quoi qu'il arrive. C'est la politique des petits pas aussi, parce que c'est des aventures qui se font sur du très long temps. Mais tout ça, c'est grisant pour nous, interprètes. On a envie de s'abandonner à ce talent-là.
On va terminer par vos projets. Donc là, il y a l'astronaute qui va se donner dans 2 jours au public. Pour toi, Nicolas, est-ce que tu penses déjà à notre film, à la suite ? Est-ce que tu as déjà des projets ? Tu écris ? Comment ça se passe ?
Oui, je suis en écriture depuis le début du mois de novembre, de mon 3e long-métrage, donc. Après être allé dans l'espace, je me suis dit, mince, tu vas aller où ? Tu vas quand même pas tourner. J'ai envie d'Antarctique.
Ah oui. Alors là, c'est un autre défi encore. Hein.
Voilà, donc je prépare mon 3e long-métrage. Voilà.
Anne, pour 2023 ?
Pour 2023, moi, je vais être en tournée pour le théâtre. Je vais tourner la pièce Berlin-Berlin que j'ai jouée en 2022 à Paris. Et puis, je tourne une série pour OCS qui s'appelle Rictus d'Arnaud Malherbe, qui était le réalisateur de Chef et que je retrouve avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà.
Super ! Deux des projets, toujours. Ça, c'est génial. Et puis, ça sera l'occasion de revenir nous en parler. En tout cas, n'hésitez pas à découvrir Astronaute. Ça sera ce 15 février au cinéma. Et je vous dis bonne chance en tout cas et merci à tous les deux d'être passés nous voir pour nous en parler. Merci Anne.
Merci à vous.
Et puis merci beaucoup Nicolas aussi.
Merci beaucoup, c'était super.
Si à nous cinq, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible.
À mon signal, tu lances la mise à feu.
Ok.
3, 2, 1, allumage moteur.
Et si la fusée explose?
Elle explosera pas.
Attends, attends, il y a un problème. Isobie!
Il est de combien le taux d'échec?
32%.
Il faudra pas non plus des années à ma boîte pour découvrir toutes les pièces que je leur ai piquées.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
On veut faire le bien.
On ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire.
Ça n'a l'air de rien.
Mais regardez la misère.
Pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non.
Il suffit de pas grand chose au fond pour
qu'un puissant fasse des millions.
Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution?
Pourvu qu'on s'aime
et qu'on les aime.
Pour que les rêves deviennent révolution.
Qu'on la prenne, qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution. Le dire sans trêve, sur toutes les lèvres.
On pourra lire notre révolution.
Dites-toi, c'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions.
Avec la force du nombre, on fait de rien.
Puissant, puis des sillons.
Pour tracer sur notre route une révolution. Pour que qu'on s'aime et qu'on le sème. Pour que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne.
S'aime et qu'on le sème,
que les rêves deviennent révolution.
Faut qu'on l'apprenne,
qu'on le retienne.
Les gens qui rêvent font des révolutions.
Faut qu'on se lève,
qu'on se soulève.
Faire de ce chant notre résolution.
Le dire sans trêve sur toutes les lèvres.
On pourra lire notre révolution.
Résolution.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré à Juste Ciel qui sort mercredi dans les salles. On va avoir le plaisir de découvrir ce nouveau film de Laurent Tirard. Et c'est son mois, elle va passer quasiment le mois de février avec nous. Guylaine Landès qui est avec nous. Bonjour Guylaine.
Oui, bonjour.
Parce qu'elle sera avec nous également dans 15 jours pour parler de ce très beau film aussi d'Olivier Péillon, Arrête avec tes mensonges. Et elle est accompagnée de Louis Malek, qu'on a eu le bonheur de recevoir pour Scam, notamment une série qui a cartonné sur Slash France TV. Bonjour Louise.
Bonjour.
Qui joue une stagiaire, vous allez voir, qui va emmener ce couvent de façon assez joyeuse. On va le voir, mais d'abord on va essayer de planter un peu le décor. Louise, t'as envie?
Allez, vas-y, je me lance. Eh ben, on est sur quand même 5 bonnes sœurs qui vont participer à une course de vélo pour essayer de restaurer un peu un EHPAD vraiment
en laborieux état. Et donc, elles vont participer à cette course de vélo. Bon, la mère supérieure est pas complètement d'accord au début. Finalement, elle voit que c'est bien vu, donc elle accepte. Et ça va être toute cette péripétie de ces bonnes sœurs qui sont complètement déjantées, complètement décalées, mais en même temps, qu'on ne peut pas ne pas aimer.
C'est vrai, elles sont très très attachantes. On va parler de sœur Béatrice un petit peu. Ouais. Comment tu la définirais, toi, Guylaine ?
Un être sensible, en fait, est tellement sensible qu'elle emmerde un peu tout le monde parce qu'elle est toujours côté très enfantin. J'ai adoré jouer ce côté très enfantin. Il y a un côté un peu clown hein, chez nous toutes. On est un peu des poules, d'ailleurs on le dit, des poules sans tête. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elles vont un peu dans tous les sens. Elles sont assez drôles pour ça. Et sœur Béatrice amène donc ce côté un peu naïf, un côté un peu trop sensible et rigolo, je trouve. Mais super, enfin j'ai voulu lui donner un peu quand même de fantaisie,
moi je trouve aussi.
De fantaisie et de profondeur aussi. Il y a un vrai truc chez elle. C'est pas vain. Elle a un vrai cœur, quoi. Voilà. J'aime beaucoup.
Le film démarre par elle, hein, d'ailleurs, hein, puisque elle se retrouve dans le potager du couvent et elle découvre une fleur qu'elle pense être un Edelweiss. Et là, évidemment, ça va mettre un peu le feu aux poudres parce que est-ce un Edelweiss ou pas? Évidemment, vous le saurez en allant voir le film, n'est-ce pas, Guylaine?
Exactement. Non, j'aime vraiment beaucoup ce personnage, sœur Béatrice. J'ai adoré.
Une belle découverte aussi dans ce film, Louise, avec ce personnage de Gwendoline, une jeune fille qui se cherche, qui cherche un peu le monde dans lequel elle vit, à se faire accepter, à se chercher sa place, et puis elle va essayer de la trouver auprès de ce couvent en tant que stagiaire pour découvrir si effectivement la religion et la foi et son chemin ou pas. Comment tu la définirais, toi, Gwendoline, Louise?
Eh ben, je dirais que c'est quelqu'un de très maladroit, mais en même temps de très attachant par son grand cœur et son envie de bien faire toujours. Parce que même si elle fait parfois mal les choses, même si parfois elle dit des choses pas adaptées, ça vient surtout de d'où elle vient et donc c'est beaucoup de maladresse, mais en même temps c'est ça en fait. Elle est authentique, elle est vraie et elle a un vrai cœur et elle est très déterminée. Elle fait les choses avec passion et avec envie. Et je pense que si ça avait pas été une course de vélo, si ça avait été une course de ski ou alors peu importe, elle s'y serait donnée au même niveau, autant à fond, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur et qui se donne à fond pour réussir et pour surtout rendre fiers les autres et pour trouver sa place aussi.
Alors t'as des belles scènes de vélo. Et ça a été tourné en Jura. Ça n'a pas été tourné dans notre région, qui est assez plate, nous en Nouvelle-Aquitaine, faut le dire. Et je suis sûr que t'es ressorti de ce tournage avec des mollets, mais en béton, Louise.
Alors déjà, oui. Non, mais une forme surtout. Moi qui fais vraiment peu de sport, j'avais une forme, mais d'enfer. Moi, au début, je pensais que ce serait facile, le vélo de course. On m'a dit, on va te faire livrer un vélo, comme ça tu t'entraînes. Moi, j'ai dit, je vais faire mes trajets quotidiens avec. Je suis montée sur le vélo, je suis tombée instantanément en fait, parce qu'il faut savoir que les roues sont extrêmement fines et qu'est-ce que c'était dur au début. Donc j'ai eu des cours de vélo de course et finalement j'y ai pris plaisir, j'y ai pris goût et puis quel plaisir de faire du vélo dans le Jura avec le temps qu'on avait et puis
la beauté,
c'était magnifique. Donc ouais, franchement, peu de peine et beaucoup de bonheur.
Un beau casting, Claire Nadeau aussi, alors qui a pas plus de dialogue que dans Les Tuches, hein, on va dire, hein, que Mamie Suze dans Les Tuches, mais c'est tout, voilà, dans ses contrats de Claire Nadeau. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle, rien qu'avec les yeux et l'expression.
Deux secondes, Claire Nadeau, en effet, plante une situation, en tout cas, le personnage, avec ses yeux, sa moue, on adore quand même, en effet, c'est mimique, elle a pas grand-chose à dire, mais en deux secondes, on part, c'est drôle, quoi.
C'est ça qui est incroyable avec cette actrice, c'est que elle n'a pas besoin de parler pour transmettre 800 000 émotions. Et c'est dingue. Moi, ça m'a impressionné que de voir comment elle arrive à tout faire passer par son corps, sa tête. Ça m'a beaucoup impressionné. Ouais, franchement.
On va écouter la bande-annonce juste si elle sort mercredi au cinéma et on va écouter un petit extrait. On revient juste après avec vous.
Que nous vaut l'honneur de votre visite.
Nous venons participer à la course de vélo.
Oh putain, nom de Dieu!
Malgré le potentiel évident de votre équipe, je crois que nous allons nous débrouiller.
Allez les gars, c'est le dernier.
Et si on demandait à Monsieur Pierre de nous donner des cours?
Alors les filles, paraîtrait qu'on a besoin d'un homme finalement.
Allez, Juste Ciel, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine à découvrir dans les salles. Le nouveau film de Laurent Tirard. On va évoquer vos souvenirs de tournage à toutes les deux. Pour le coup, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers? Est-ce que vous partagez beaucoup de scènes chorales, finalement, avec Camille Chamou, avec Valérie Bonneton, avec Claire? Il y a énormément de scènes chorales. Puis avec ses sœurs qui arrivent aussi d'un autre couvent pour voler un peu la vedette au vôtre.
En fait, moi, le souvenir que j'ai, d'abord, on s'est extrêmement bien entendu. Nous n'étions que des femmes, hein. Des femmes avec des sacrées personnalités, de sacrés caractères, hein, c'est évident, et toutes très différentes. Mais ce que j'ai adoré, c'est une vraie osmose. On est resté enfermé quand même un mois et demi dans un hôtel. On était quand même période plein Covid. Donc en fait, on est resté un mois et demi dans le Jura, dans un hôtel, tous ensemble. Personne n'est sorti quand même du tournage, c'est-à-dire d'être allé à l'extérieur, n'est rentré chez lui. Donc il valait mieux qu'on s'entende bien, parce que voilà, un mois et demi ensemble. Et ce que j'ai adoré, c'est ça en fait. On était tout le temps ensemble et on a adoré être ensemble. Il y avait du travail, on a quand même beaucoup travaillé. Mais il y avait la fête aussi. Il y a eu beaucoup de fou rire aussi. C'est des situations qui quand même engagent forcément le rire. Même pour nous, on riait pas parce qu'on était génial, on riait parce qu'en fait les situations étaient très drôles à jouer. Donc voilà, un lieu extraordinaire, le Jura. On a découvert une région sublissime qui est le Jura. Une beauté inouïe. On était comme au 19e siècle. Baume les messieurs et tout ça. C'est juste extraordinaire. Hein. C'est à visiter.
Oui, il y a une scène qui m'a fait beaucoup rire, c'est la scène du grenier. Où tu pétrifies toutes les autres sœurs, puisque tu dois vous verrez dans le film, mais tu dois les accompagner, justement dans cette chambre, dans le grenier. Et d'un seul coup, tu t'amuses à leur faire peur. Et la scène est très, très drôle.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai adoré le faire. Bah, évidemment, en fait, c'est comme un conte. Elle parle comme à des petites filles. Elle raconte l'histoire. Très grave qui se passe dans le grenier, tant qu'elle y met tout son cœur. En fait, elle joue, c'est une joueuse, mais c'est une bonne conteuse. En fait, elle leur fait peur, elle a réussi à leur faire peur. Donc ça, j'ai adoré aussi.
Et moi, la scène que j'ai bien aimée pour toi, Louise, est une scène hyper hyper attachante et touchante aussi. C'est la scène avec François Morel, où évidemment lui, il pète les plombs. Vous verrez pourquoi dans le film, et donc il en veut énormément aux sœurs. Et toi, tu viens le remettre, mais d'aplomb. En lui racontant ton histoire, en lui racontant ton passif du personnage de Gwendoline, j'ai beaucoup aimé cette scène qui est hyper touchante.
Bah oui, c'est vrai que c'était un des premiers jours de tournage. Donc faut savoir que j'étais pétrifiée en fait de dire tout ça face à François Morel, qui est quand même c'est quand même un bon petit monument, François Morel. Et donc j'étais pétrifiée au départ. J'avais peur de pas être à la hauteur, mais en fait c'est vrai que mes camarades m'ont beaucoup aidée. Je me rappelle ce moment-là, j'étais stressée, et c'est vrai que vous étiez toutes là à m'aider, à me soutenir, et ça m'avait vraiment mis en confiance. Et au début, bon, j'étais stressée et un peu bloquée, mais François aussi me mettait vraiment en confiance aussi. Et toute cette confiance, en fait, tout cet amour qu'on me donnait, toute cette cohésion m'a mis à l'aise, et j'ai adoré finalement faire cette scène alors que ça partait d'un très gros stress.
Bon, j'imagine en tout cas vous avez vécu de beaux moments. Nous, on le voit sur l'écran. Mercredi, Juste Ciel, ça sort au cinéma. Merci à toutes les deux en tout cas d'être venues nous parler de ce film. Vous avez rien, on en a besoin en plus. En ce moment, on va finir par vos projets. On le disait, Guyane, tu reviens dans 15 jours avec Guillaume de Tonquédec, Olivier Payon. On va parler de ce magnifique film Arrête avec tes mensonges, aussi en plus tourné dans nos Charentes. Donc tu vas venir justement revenir nous parler de ce film. Est-ce qu'il y a d'autres projet pour 2023 en plus?
Ouais, il y a une série Les Bracelets Rouges là qui a repris.
Oui, donc, saison 4, on en parlait quand on a parlé du discours il y a 2 ans. Tu espérais que ça revienne donc?
Je suis ravie de refaire ça. Il y a du théâtre qui arrive aussi avec une pièce magnifique anglaise de Jane Anderson qui est magnifique, qui s'appelle Normal, que j'adore, avec Patrick Dasumsao. J'ai normalement aussi un téléfilm auquel je tiens, que je vais tourner normalement avec une jeune femme, une jeune réalisatrice, voilà, qui devrait se faire cet été. Voilà. Non, il y a plein de belles choses.
Bon, et puis dans 15 jours, on se retrouve évidemment. Louise, les projets pour toi?
Et les projets, j'ai peut-être un projet l'année prochaine, voire deux, mais en fait j'ai pas trop le droit d'en parler, mais voilà. Et puis aussi, j'espère que Juste Ciel va m'apporter plein de trucs.
J'en suis sûr. Tu vas voir, dans 2 jours, le téléphone va sonner. C'est sûr et certain, ça va t'amener plein de belles choses. En tout cas, nous, on espère te revoir très vite. À l'occasion, merci Guylaine, et merci en tout cas à toutes les deux, Louise, d'être venue nous voir. Merci.
Merci beaucoup.
Recueillement pour nous évoque cueillir, accueillir, recueillir.
C'est bien pourri quand je...
Ça te fait ! Fou dans mon bureau.
Vous allez aider le vieillard de l'hospice.
Faut aller à la mairie pour demander une subvention, mais c'est des démarches compliquées. Hein.
Cette année, tout est passé là-dedans.
Vous avez fait quoi ? Je t'enverrai grimpir dans les flammes de l'enfer.
J'adore cette histoire de course de vélo.
Justement, c'est ce que je leur disais.
Ah.
Hein ?
Et on continue à parler de Juste Ciel avec Valérie Bonneton qui nous a justement rejoint. Bonjour Valérie.
Eh bien bonjour.
Qui joue le rôle de mère Véronique. Alors une mère punchy, hein, on peut dire. Hein. C'est psychorigide au départ et puis tellement attachante qu'il va nous montrer plusieurs facettes de ce personnage finalement.
Bah, tout de suite, j'ai eu envie de le jouer parce que quand même, c'est très drôle. C'est-à-dire que une mère supérieure, comme son nom l'indique, dirige un peu et contrôle toute sa petite équipe de sœurs jusqu'au jour où quelqu'un d'autre arrive et en fait, quelqu'un qui est au-dessus d'elle, qui est beaucoup plus compétente parce que c'est une congrégation, les bénédictines, pas très compétentes en fait. Voilà, elles essayent de faire rouler, de respecter les règles au mieux, mais c'est quand même pas très efficace. Donc, dès que quelqu'un d'autre arrive, c'est la panique et en fait, elles sont comme tout le monde, enfin elles sont comme vous, comme moi, c'est-à-dire qu'on est toujours le petit de quelqu'un, quoi. Et donc, là, il va y avoir une espèce de guerre entre elles deux pour gagner une course cycliste. Donc si vous aimez les bonnes sœurs, si vous aimez les cyclistes, ben vous allez vous régaler.
Si vous aimez western aussi, parce qu'il y a une ambiance un peu western hein, ouais, par moment entre vous deux. Hein.
Il y a des genres différents, un mélange de charme désuet, des comédies et un mélange de modernité.
Il y a des scènes très drôles entre les deux mères supérieures.
Ah bon, on s'est régalé parce que la chance d'avoir un groupe de super actrices dont Babette Kunson qui est géniale dans Borgen, voilà, donc qui est vraiment une super actrice. Et donc de pouvoir y mettre tous les travers humains, c'est-à-dire l'ambition, la veulerie, la jalousie, le truc qu'on retrouve encore plus chez les sœurs, c'est assez jouissif.
Bon, il y a eu plein de bons moments. Par contre, au niveau des mollets, il devait y avoir des mollets en béton à la fin. Hein. Parce qu'il y a des scènes hein, de vélo qui n'ont pas été épargnées à Mère Véronique.
Hein. C'est réellement entraîné. On s'est réellement entraîné, c'est pas évident quand même. Hein. Puis on se dit, oh là là, parce que là, les virages, là, c'était quand même costaud. Mais j'ai apprécié le vélo de course. En fait, je trouve ça génial.
Quand il n'y a pas de trou sur la route, vous verrez, il y a une scène de cascade. On vous en dit pas plus, mais il y a une scène de cascade à ne pas rater. Évidemment, Valérie. Quel est votre meilleur moment sur ce tournage?
Le meilleur moment, c'était à la fois certaines petites scènes fines, par exemple, entre le repas, quand on est obligé de recevoir les Clarisses à table. Il y a des petites scènes de regard dans le muet, parce que j'aime ça. Moi, j'aime quand il y a le jeu dans le muet, pas dans le texte. Donc, chez les bonnes sœurs, elles sont souvent dans le silence. Donc, bah là, tout se joue. C'est assez jouissif, quoi. Je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée. Et puis, je me suis régalée parce que, quand même, c'était la période du Covid et on tournait avec toute cette bande de filles. Et c'était des moments rares où on pouvait se retrouver le soir parce qu'il n'y avait personne d'autre. Donc, on pouvait pas choper le Covid. Donc, on était contre nous et ça fait beaucoup de bien, quoi. On s'est très bien entendu et donc, ça permet de jouer et de se régaler.
Il y a une scène particulière qui ressort.
Bah oui, bien sûr. Enfin voilà, cette scène à table que j'ai adorée avec les repas, enfin voilà les trucs et puis
cette scène de prière à table, elle est très drôle.
Ouais, elle est drôle. Mais plein d'autres et puis surtout la scène de la fin en fait où finalement je trouve que c'est assez touchant quoi, où les personnages évoluent bien. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Vous allez voir en allant voir tout simplement ce film Juste Ciel qui sort mercredi au cinéma. Valérie, des projets pour 2023?
Oui, là je continue le film de Nicolas Vanier qui s'appelle Le Monde à l'envers et qui est un film qu'il a écrit il y a 3 ans qui est incroyable puisque c'est absolument aujourd'hui. C'est-à-dire plus d'électricité, plus d'essence, c'est une comédie. Voilà. Donc on continue parce qu'on a tourné en hiver et là on va tourner l'été au mois de mai. Ensuite, je vais faire le film de Philippe Paulet-Villard qui Carré Productions. Qui avait eu un Oscar et un César pour son court-métrage le Mozart des cambrioleurs et j'ai hâte parce que c'est vraiment un beau scénario, très beau scénario quoi.
On a eu un beau cadeau de Noël il y a un an, c'est de revoir les Boules et les Lepic pour un épisode spécial. Est-ce que vous prévoyez peut-être de vous retrouver à nouveau pour un épisode spécial ou peut-être pour un film au cinéma un jour?
Peut-être, mais pas pour l'instant en tout cas. Voilà, c'est. Je suis fière de cette série. Je suis très fière. Vraiment, j'ai une chance merveilleuse d'avoir pu jouer plein de situations, plein d'états, de drôleries, de folies, de psychopathes limites, de tendresse, d'émotions. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses aussi différentes, et dans la comédie, et dans des choses plus sensibles. Ouais.
En tout cas, j'ai une femme qui sait très bien vous imiter quand elle m'appelle à table maintenant.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est culte. Bon, Valérie, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Il y aura du théâtre aussi.
Oui, du théâtre. Muriel Magellan, c'est une pièce, une très belle pièce. Il me plaît beaucoup.
Une scénariste qu'on aime beaucoup aussi, avec La Page Blanche, qu'elle a sortie il n'y a pas longtemps au cinéma et qu'on a reçue. Voilà, on l'embrasse d'ailleurs, Muriel. Je sais qu'elle nous écoute régulièrement.
Super, super. Bon, on l'embrasse.
Merci beaucoup, Valérie. Merci. À bientôt.
À bientôt, à bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à L'île prisonnière qui débarque ce soir sur France 2 en 6 épisodes. Et c'est Lannick Gautry qui est avec nous pour en parler. Bonjour Lannick.
Bonjour, salut.
Merci d'être avec nous Lannick. On est très heureux de t'avoir, surtout qu'il y a beaucoup de choses. On a eu Escape 2 il y a quelques jours sur nos écrans. Il y aura de très belles fictions pour toi en tout cas qui vont arriver pour 2023. Et alors dis-moi, tu nous avais pas habitués à ce à un rôle de méchant comme ça quand même. Hein.
Ah ouais, mais ça fait du bien de jouer les badass. Un peu,
hein. C'est clair. C'est bien d'être là où on n'attend pas.
Ben voilà, on dit toujours les mères l'adorent, là maintenant les mères l'aiment moins.
Mais si, on l'adore toujours, Lannick, on est toujours heureux de te retrouver. Tu vas y jouer le rôle d'Alpha, le chef d'activistes qui vont débarquer sur une île et qui vont en fait confiner tout le monde sur cette île. Alors pourquoi ? Comment ? Le mystère va être entier et c'est ça qui va nous tenir en haleine pendant ces 6 épisodes. C'est un projet qui est vraiment génial, tourné en Bretagne dans des décors somptueux. T'as dû quand même passer de bons moments sur ce tournage, je pense.
Ouais, c'était vraiment beau. Après, moi, j'habite en Bretagne, donc j'étais un peu, je jouais à domicile, comme on dit, quoi. Donc, ouais, c'est déjà les décors, etc. L'intrigue me plaisait vraiment. Le casting était quand même assez exceptionnel. Moi, j'ai vraiment pris un grand plaisir de par encore une fois l'intrigue, le sujet et les gens qui étaient là pour défendre ce truc avec moi, quoi.
Alors, Michel Bussy, du coup, qu'on connaît plus en tant que romancier, là, qui se met à la production d'une histoire originale qu'il crée lui-même. Quand vous l'avez rencontré, on connaît l'écrivain aujourd'hui, mais un peu moins le producteur, du coup.
Mais ça, c'est bien pour lui, enfin, j'imagine pour tous, parce que donc on le connaît, Michel, mais je crois que pour tout le monde, c'était. C'est nouveau, c'est une nouvelle aventure pour lui, pour nous. Voilà, moi j'aime bien ces romans. Et puis là, du coup, on passe directement au scénario sans que ce soit adapté d'un roman. Et voilà, c'est très nouveau, quoi. Et je pense que les gens qui aiment Michel Bussy ne seront pas déçus.
Alors oui, parce que ce qu'on peut expliquer quand même, Lannick, c'est que L'île prisonnière a été tournée en partie dans le Morbihan, mais aussi Pointe Finistère. Hein.
Oui, Camaret. On a tourné à Camaret, donc le port, tout ça se situe à Camaret, donc à la pointe bretonne. Il y a des décors qui se situent aussi autour de Quimper, et on a aussi tourné juste à côté de chez moi, à Guidel, quoi. Donc ça s'est un peu étendu sur depuis la pointe bretonne de Camaret jusqu'à Guidel, l'Orient, quoi.
Comment tu le définirais, Alpha ?
Alpha, comment le définir, cet homme-là ? En fait, on peut être d'accord avec lui ou alors le détester. En fait, c'est quelqu'un qui est habité par ses convictions. Et ça, c'est plutôt une belle chose, puisque ses convictions sont écologiques. En fait, il veut défendre presque dépit, un peu sauver, faire un acte assez violent pour pouvoir sauver les autres. Et donc, après, tout ça, on peut en discuter, c'est-à-dire savoir est-ce qu'on peut s'attaquer à certaines personnes pour en défendre d'autres. Donc, le sujet peut être débattu. Après, lui, ce qu'il fait, c'est sauver la planète. Et encore une fois, voilà, il est perdu dans ses convictions. Et peut-être que parfois, quand on n'a qu'un seul regard, qu'un seul angle de vue, on peut en oublier les autres et qui peuvent être aussi assez importants, en fait. Donc, je crois que c'est quelqu'un son combat est juste, mais la méthode peut être discutable.
Il y a une scène particulière ?
Non, en fait, non. Il fallait vraiment être concentré parce que le sujet est quand même difficile et délicat.
Ouais.
Et il fallait le rendre crédible, quoi. Et tout son passé écarté, comme je disais à l'instant, des objectifs et des buts du personnage. J'ai pas d'anecdote, en fait. Moi, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Non, pas de fou rire, j'ai pas eu ça, non, je suis toujours très concentré, moi, j'ai pas de truc particulier, en fait.
On est très vite embarqué dans un suspense, une tension, en tout cas, qui nous embarque, nous, téléspectateurs. Et ça, ça fait vraiment plaisir de pouvoir être happé comme ça par une histoire.
Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est propre au travail de Michel Bussy, en fait, où il arrive très vite dans son écriture à appeler le personnage. Et c'est plutôt, j'allais dire très intelligent, mais voilà, c'est ce qui fait aussi sa marque de fabrique. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de romans, que beaucoup de gens le suivent, etc. C'est qu'il a, c'est ça qui fait là à nous happer assez rapidement, quoi.
Alors, il y a un casting incroyable autour de toi, Pierre Perrier, Déborah François, on a vraiment c'est génial la troupe de comédiens qui est autour de toi là.
Anouk Grimberg, il y a vraiment un super casting. Bah déjà sur le papier, c'est pour ça, moi quand on m'a proposé le projet sur le papier, ça c'était assez alléchant. Et puis surtout Elsa Hippolyte, les réalisateurs et les réalisatrices qui sont très très bons. Non, sur le papier, ça comme on dit, ça va être de la gueule, quoi.
Bon, les projets. Landik, on te verra bientôt aussi dans une fiction qui s'appelle Répercussion, qu'on a pu voir du côté du Festival de Luchon, qui a été primé d'ailleurs meilleur scénario. On y raconte l'histoire d'une bande d'amis où ça tourne mal après un anniversaire un peu arrosé. Et il y a une très belle morale dans cette histoire, en tout cas qu'on découvrira bientôt. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous attendent avec toi ?
Alors oui, là je suis en train de tourner la saison 2 de Vise le cœur.
Ouais, avec Claire Kame.
Voilà. Et je viens de finir aussi un joli téléfilm qui va sortir pour Noël avec Hélène de Fougerolles, réalisé par Gilles Paquet-Brenner, qui sortira l'hiver prochain. Donc oui, il y a des choses qui arrivent, ouais.
Eh ben super, impeccable. Merci en tout cas, Landik, d'avoir été avec nous. On te retrouve ce soir dans L'île prisonnière. Les deux premiers épisodes, c'est sur France 2, c'est à 21h10, juste après Un si grand soleil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Et on se quitte tout de suite avec un petit extrait. C'est parti.
Je m'appelle Christine. J'habite Pénic depuis toujours. C'est mon île. Calme, isolée, tranquille.
Je m'appelle Alpha. Vous resterez confiné ici durant les prochaines 48 heures. Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici.
Ici, il n'y a personne qui a confiance en toi.
Vous pensez que je suis avec eux ?
C'est pourquoi t'es revenu. Au bout de 10 ans.
Je te promets, je vais arranger tout ça.
Il y a tellement besoin
de
moi.
Ce que je vous demande, c'est de rien changer à vos habitudes. On est samedi, c'est la tournée du facteur. J'ai besoin de figurants.
Je sais qui est le sixième passager.
Depuis hier, on est pris en otage et comme par hasard...
Allez, notre coup de cœur plateforme cette semaine est consacré à Cosmic Love. Vous le savez, le programme a débarqué en janvier sur la plateforme. Un nouveau programme de dating amoureux, mais sous le signe des astres. Ce coup-ci, et celle qui a fait son arrivée au 9e épisode, est une fille de notre région. Elle s'appelle Lolita et elle est avec nous en ligne. Bonjour Lolita.
Salut Alain, ça va ?
Ça va très très bien, merci d'être avec nous. Cosmic Love, l'émission présentée par Nabila, et donc a fait son arrivée en tout cas sur Prime. Et on peut dire qu'en tout cas, cette émission est sous le signe des astres. Mais pourquoi déjà tu as décidé, en tout cas, tu as eu envie de faire cette émission ? Qu'est-ce qui t'a décidé Lolita ?
Eh bien écoute, l'envie de vivre une nouvelle expérience, déjà dans un premier temps, voilà, une expérience télé, c'est vrai que ça a attisé ma curiosité. Et puis en second plan, forcément, la possibilité de trouver l'amour. En plus de ça, c'est basé sur l'astrologie, donc c'est quelque chose que j'aime et tout, qui m'intéresse. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas.
Alors explique-nous un peu le concept de l'émission, puisque c'est sous le signe des astres que ça se passe, pour ceux qui ont Prime et qui ne l'ont peut-être pas encore vu, même si l'émission s'est hissée en tête des vues pendant tout ce mois de janvier. Et c'est tes rencontres amoureuses, mais pas n'importe comment, puisque l'Astro Chamber essaye de bouleverser un peu les destins.
Alors oui, c'est vrai que moi je suis arrivée en tant qu'élément du coup, donc le principe c'était qu'il y avait quatre filles, on était quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et du coup en fait on avait donc des cosmic lovers qui venaient pour nous séduire et du coup voilà, il y avait des connexions, on devait apprendre à les connaître et voilà, évoluer, voir comment ça pouvait se passer. Et on était oui évidemment guidés par l'Astro Chamber qui nous donnait tous les conseils dont on avait besoin pour trouver voilà la personne qu'il nous fallait.
Qu'est-ce qui t'a fait décider plus d'aller sur Cosmic Love que plutôt de faire une Villa des cœurs brisés ou d'aller faire une autre émission de ce type-là ?
Eh bien, écoute, tout simplement parce qu'on me l'a pas proposé.
D'accord.
Voilà, non, tout simplement. C'est vrai que c'est des télés qui auraient pu aussi potentiellement m'intéresser. Donc voilà, j'ai été contactée pour celle-ci. Voilà, c'était Amazon Prime. C'était donc voilà sur une plateforme. C'est vrai que une télé, on va dire, qui peut être voilà, qui peut passer voilà vraiment tout le monde. Enfin, tout le monde n'a pas Amazon Prime, du coup, ça réduit un petit peu, je pense, le nombre de personnes qui pouvaient voir l'émission. Mais du coup, voilà, pour une première expérience télé, franchement, ça m'a paru bienveillant et tout, parce que c'est vrai que ça peut effrayer ce genre de programme. C'est vrai qu'on en entend du bien comme du mal.
À aucun moment, Lolita, t'as eu peur, justement ?
Alors si, forcément, il y a de l'appréhension parce que être filmé H24, c'est pas évident. Afficher sa vie amoureuse, ses sentiments, c'est un exercice qui est pas facile. Mais je me suis dit, allez, je relève le défi et j'y vais.
C'est une façon aussi de se soigner des blessures du passé par moment.
Eh ben oui, je pense que aussi c'est une manière pour moi de me soigner de certaines blessures, dans le sens où voilà, j'aime vivre des nouvelles expériences, peuvent parfois me mettre un peu dans des situations où, on va dire, inhabituelles, qui peuvent être peut-être inconfortables par certains moments, mais ça pousse aussi à se dépasser. Et je pense que c'est ce que je cherche aussi.
Et à sortir de sa zone de confort, du coup.
Et à sortir de sa zone de confort, complètement.
Bon, ce séjour à Malte, quand même. Parce que alors, moi, j'ai vu quelques épisodes, et la piscine n'avait pas l'air froide, on va dire.
Non, la piscine était très chaude, ouais.
Bon, tu vas garder un bon souvenir, en tout cas, de ce voyage à Malte ?
bien sûr, je vais garder que le positif, comme d'habitude, bien sûr, c'était une expérience quand même de dingue, j'ai rencontré des gens incroyables, donc franchement, rien à dire, c'est top.
Bon, et la question que se pose tout le monde, évidemment, c'est Cosmic Lover, alors?
Eh ben, moi, j'ai eu vraiment deux feelings, on va dire, plus prononcés, donc avec Salah et André, donc, qui étaient deux de mes connexions. Et voilà, c'est eux que j'ai gardé vraiment jusqu'au bout. Après, bah, derrière, j'ai fait un choix, voilà, le dernier choix, on va dire.
Qu'on verra. Mais, voilà, pour ceux qui vont regarder l'émission.
Exactement, mais c'était des très beaux garçons, très intéressants. Enfin, franchement, il n'y avait rien à dire. C'est vraiment des très, très belles rencontres.
T'as gardé contact avec, je pense à Lison, avec qui t'as déjà, on va dire, un petit point commun dans une autre aventure, dans une autre vie. Mais est-ce que t'as pu échanger avec les autres filles? Est-ce que t'as gardé des contacts, une amitié?
Alors oui, oui, j'ai gardé contact avec les filles, bien sûr. Donc en plus, on a eu la soirée de lancement, donc on s'est tous revus du coup entre Element et Cosmic Lover. Et du coup, c'est vrai que Lison a partagé l'aventure de Miss France avec moi. Ça nous faisait un point en commun. Après, on n'a pas eu non plus un feeling de dingue, pour être honnête. Mais voilà, enfin, moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Enfin, vraiment, il y a pas de souci. Après, j'ai eu beaucoup plus d'affinité, par contre, avec les Cosmic Lovers, ça c'est sûr.
Bon, Lolita, maintenant que t'as fait cette première expérience, en tout cas, de Cosmic Love, quelle est l'émission dont tu rêverais aujourd'hui de participer?
Alors, il y a pas forcément d'émission auxquelles je rêve de participer. Après, c'est vrai que on parlait de la villa tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un programme qui pourrait m'intéresser dans le sens où moi, j'ai vraiment des blessures sentimentales assez prononcées avec une vraie histoire, et je pense que déjà, ça serait beau d'une certaine manière à expliquer. Et aussi, voilà, le programme, forcément, la Love Coach Lucie, c'est... Enfin, moi, j'y crois complètement à ces thérapies. Enfin, franchement, pour moi, c'est pas du tout du fake. Et du coup, je me dis parfois que j'aurais peut-être besoin de son aide.
Que Lucie Mariotti pourrait t'aider.
C'est ça. Après, des trucs un peu plus sportifs et tout, parce que moi, j'ai un côté un peu aventurière. Donc, tout ce qui est les apprentis aventuriers, même Pékin Express, c'est des trucs qui pourraient beaucoup m'intéresser, où c'est du challenge, où c'est voilà, du dépassement de soi, et c'est complètement ce que je recherche.
Bon, bah écoute, on te souhaite plein de belles choses. En tout cas, on va se quitter avec un petit extrait de Cosmic Love. C'est donc en ce moment sur Prime Video. Lolita, merci d'avoir été avec nous, et puis on te dit à très très bientôt, en tout cas.
Merci beaucoup, Alain.
On t'embrasse.
Allez,
à très
salut.
Vite.
Moi aussi, je vous embrasse. Ciao.
Bienvenue dans Cosmic Love, l'aventure de quatre femmes bien décidées à s'en remettre aux astres pour trouver l'amour. Je vous présente l'Astro Chamber.
Mon but, trouver le partenaire idéal à nos célibataires grâce à leur thème astral.
J'imagine que vous avez hâte de découvrir des fameux Cosmic Lovers.
C'est quoi comme signe astrologique?
À ton avis.
Lion?
Ouais.
Je comprends pas comment ça peut être ma connexion.
Dans cette aventure, je serai la confidente des filles. Surtout, laissez-vous séduire.
Là, je suis tellement perdue.
C'est de l'ego, c'est parce qu'elle a pêché un autre mec.
C'était un malade, hein.
Le Gémeaux, le pire signe de l'histoire.
Pleure pas.
Sa réaction, elle me fait du mal.
Les astres, ils ont envie de jouer, ça tombe bien, moi aussi.
Bienvenue à cette cérémonie du choix. Les étoiles veillent sur nos héroïnes. Suivront-elles leurs conseils pour trouver l'amour?
Et alors que le film a été primé au Festival du film politique de Carcassonne et au Festival du film de société de Royan, on va parler du film Le Marchand de Sable dans un instant. Le film de Steve Acheppo qui nous rejoint avec Moussa Mansali et Ophélie Beau. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Dis-moi tout mamacita, j'ai besoin de te voir c'est vite. Je sais qu'à le cœur vide, fais-moi quand même une petite place. Dis-moi tout mamacita, dis-moi ce que tes yeux me disent pas. Calme-toi, t'es va pas vite, garde-en un peu pour plus. Je fais tourner la ville avec Bambina, on l'aura la Dolce Vita. Je fais tourner la ville avec Bambina, je ressens des choses mais je te le dis pas. On a toute la noche, dis comment t'es diamas. J'aime quand tu fais la belle, moi je finirai dans tes bras. Je lâcherai pas les yeux, un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores, quand tu danses la bachata. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Dis-moi tout, mamacita. Tout le monde te veut ma beauté, laisse-les un peu sur le côté. Tire-moi qu'on se le dise. Crois-moi que je vais pas fauter. Ton petit sourire, je le connais. Quand t'es jalouse, t'es trop belle. T'es là, tu m'analyses. T'as eu tout ce que tu voulais.
Je fais tourner la ville avec Bambina. On l'aura la Dolce Vita. Je fais tourner la ville avec Bambina.
Je sens des choses mais je te dis pas. On a toute la noche, dis comment t'es diamant. J'aime quand tu fais la belle, moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux, un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores, quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Faire un tour, tu veux aller où? Faire des trucs de fou, toi et moi c'est nous. Je t'emmène faire un tour, tu veux aller où? Faire des trucs de fou, toi et moi c'est nous. On a toute la noche, dis comment t'es diamant. J'aime quand tu fais la belle, moi je finirai dans tes bras. Je te lâcherai pas les yeux, un peu comme Mona Lisa. J'aime trop quand tu m'ignores, quand tu danses la bachata. Dis-moi tout mamacita. Dis-moi tout mamacita. Dis-moi tout mamacita. Dis-moi tout mamacita.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est sans conteste consacré au film Le Marchand de Sable de Steve Achepo qui est avec nous. Bonjour Steve.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu seras rejoint d'ici quelques minutes par Ophélie Beau et Moussa Mansali, tes deux héros. Le Marchand de Sable, c'est un énorme coup de cœur pour nous. On a eu la chance de le voir il y a quelques mois au Festival d'Angoulême. Ce film est incroyable. On parle de Marchand de Sommeil, évidemment, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On parle aussi vraiment d'une histoire humaine. C'est vraiment un film qui nous a bouleversés. On souhaitait vraiment pouvoir vous donner la parole pour justement pouvoir en parler le plus possible de ce film. Et puis surtout parler de ce sujet, du Marchand de Sommeil. Comment est venue l'idée, Steve?
Alors, quand j'avais 20 ans, j'étais agent immobilier. Et du coup, j'ai été plus ou moins témoin de ces pratiques-là. Et il m'était arrivé une anecdote. D'ailleurs, vous allez avoir un peu la petite primeur de cette anecdote. C'est que j'avais loué un appartement. Non, j'avais vendu un appartement à un client. Je travaillais dans le 16e arrondissement. Moi, j'habitais à Cergy dans le 95, mais je venais sur Paris pour travailler dans le 16e arrondissement. Et j'avais vendu un très bel appartement, très bourgeois. Et un an après, le propriétaire est revenu et m'a proposé de retravailler avec lui, mais cette fois-ci à la location et de louer un appartement. Sauf qu'il m'a mis une condition, c'est que c'était pas son appartement, c'était celui de sa grand-mère. Et sa grand-mère ne voulait pas que de Noirs y vivent. Et donc du coup, j'étais un petit peu surpris. Donc
tu m'étonnes.
J'en ai parlé à mon patron, il m'a dit ok, je comprends tout à fait que tu ne veuilles pas travailler sur ce bien. Par contre, ça reste quand même de l'argent directement dans ta poche. Et j'ai des besoins, j'étais jeune, j'étais pas non plus totalement encore construit politiquement. J'ai accepté. La première famille qui est venue, je l'ai mis en location. Mais en fait, ce conflit moral m'est resté pendant longtemps. Et c'est vrai que le moment où j'ai commencé à travailler dans le cinéma et que du coup j'avais envie de parler de la question des marchands de sommeil, j'avais envie de l'aborder sous la question de la moralité. Et justement cet événement un peu marquant que moi j'avais vécu, je voulais l'exacerber et de le mettre à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus aussi humaine et aussi tragique. Voilà, c'est un petit peu toute la genèse de mon
du projet. Du coup, t'as mis beaucoup de toi dans Joe?
Fatalement, j'ai mis beaucoup de moi, mais pas que dans Joe. Finalement, c'est dans le personnage d'Aurore, il y a beaucoup de moi aussi. J'ai même envie de dire dans le personnage du colonel aussi, il y a aussi de moi. Je voulais de la complexité. Je voulais vraiment que, comme le film navigue dans des zones un peu grises, notamment, par rapport à la question justement du trafic d'êtres humains qui est à l'œuvre. Je voulais que mes personnages aussi soient confrontés, soient pleins de contradictions aussi, et naviguent eux aussi dans des zones grises.
Alors, on est en pleine fête. Le film démarre comme ça. On est chez Joe et sa mère, puisqu'il habite chez sa mère.
Il démarre pas totalement comme ça.
Non, il démarre pas comme ça, mais en gros, il y a des images d'archives. Voilà, beaucoup d'images d'archives aussi avant, mais le personnage d'Aïssa Maïga, qui est la tante de Joe, débarque. En pleine fête, avec ses enfants, et va se retrouver dans une situation compliquée parce qu'il va falloir qu'il la loge et va rien trouver d'autre que de pouvoir la loger dans un local commercial. Et du coup, c'est là que tout va basculer puisque petit à petit, sans le vouloir, il va devenir marchand de sommeil et à la merci de certains d'autres qui n'auront beaucoup moins de scrupules que lui. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est cette histoire qui est avant tout humaine. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans tout ça, on est vraiment dans l'humain avant tout. Et c'est ça que j'ai aimé dans ton film, justement, Steve.
Oui, c'est vrai que j'avais à cœur que le personnage de Joe puisse être nous tous, finalement.
S'identifier.
Voilà, c'est ça, qu'on puisse s'identifier. Et que dans cette situation, moi, aujourd'hui, finalement, je sais pas ce que je ferais. Est-ce que je laisserais ma tante... dormir dehors à la rue si jamais j'avais la possibilité de la mettre dans un local dans lequel elle en fait est finalement très contente de trouver et d'habiter avec ses enfants. Ben je sais pas en fait comment je réagirais, et c'est vrai que constamment questionner la position aussi du spectateur sur la moralité de ce qu'est en train de faire Joe, c'était vraiment une réelle envie. Et le fait que ce soit sa tante notamment, ben ça rapproche encore plus, ça rend le conflit finalement encore plus intime et encore plus interne.
Finalement, quelle était la scène la plus difficile pour toi ?
Alors moi, j'avais énormément hâte de tourner les séquences de fête du début du film, vraiment, parce que voilà, je voulais vraiment une séquence comme ça qui s'étale un petit peu comme dans le film de Chimino de Deer Hunter, voilà, des grandes séquences de fête pour vraiment rentrer dans cette communauté. C'est vrai que au moment du tournage, c'était horrible à tourner, parce qu'on était en confinement. C'était en plein Covid, enfin c'était pendant un confinement, et surtout il y avait ce lieu en fait, qui était très
petit pour accueillir un tournage.
C'est ça, pour accueillir un tournage.
Beaucoup de monde, beaucoup en plus de figurants.
C'est ça. Et il y avait aussi un facteur que j'avais pas du tout vu venir. Ben comme on était en confinement, c'était le deuxième confinement et que finalement tout était fermé, enfin personne ne pouvait sortir. On tournait une séquence de fête. Ben j'avais des acteurs surexcités qui du coup n'étaient pas du tout disciplinés et qui avaient qu'une envie, c'était de faire la fête en fait, vraiment. Et pour moi, c'était, enfin il y avait un espèce de chaos qu'il fallait qui, enfin le chaos un peu voilà de la festif que j'avais envie qui existe, mais en même temps ce chaos fallait quand même un petit peu le contrôler. Et c'est vrai que c'était un sacré tour de force. Et ouais, chaque soir quand je rentrais, j'avais mal à la tête clairement.
Il y a une scène d'explosion et d'incendie incroyable, on va pas dire où ni quand ni comment parce qu'autrement on va spoiler, mais là aussi qui a pas dû être simple hein, quand même à mettre en boîte.
Alors bizarrement
ça, c'est tu vois voilà.
Alors c'était pas, disons que on l'a beaucoup préparé en amont avec mon chef opérateur Sébastien Kupfer. Comme c'était un petit peu pas pour tous la première fois qu'on faisait une séquence comme ça, avec autant de figurants sur un décor aussi grand et voilà, quelque chose d'aussi spectaculaire. Bah en fait, on l'a beaucoup préparé et surtout on a dégagé du temps pour faire ça. Et ça s'est fait finalement, enfin c'est toujours comme ça, les choses qui sont spectaculaires à l'écran, quand on les fait, ça l'est pas du tout, parce que ça prend tellement de temps à être mis en place, et puis bon, il y a aussi les effets spéciaux, donc mais c'était très préparé. Et donc du coup, pour le coup, moi en tant que metteur en scène, j'avais pas grand chose à faire quoi, j'étais là et en fait j'attendais, enfin voilà quoi, j'attendais que surtout mes techniciens se mettent à l'œuvre et après bon bah c'est beaucoup de préparation et 20 secondes de shot quoi.
C'est ton premier film, Steve.
Oui.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on le voit pour la première fois sur un grand écran en présence du public?
Ben j'étais très ému, comme je l'ai porté pendant longtemps ce film, j'ai mis 8 ans pour le faire. Il y a un côté de ça y est, j'ai accouché quoi. Voilà, j'ai mis 8 ans pour accoucher moi. Et c'est vrai que c'est vraiment ce sentiment-là de soulagement, d'avoir mis bas. Et du coup, de quelque part, me libérer aussi un petit peu plus l'esprit pour passer aussi à autre chose. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment le sentiment que maintenant, le film m'appartient plus totalement. Il est un petit peu libéré. Bon, il n'est pas encore sorti au cinéma, mais...
Dans 2 jours, il sera au public.
Dans 2 jours, voilà, il sera au public. Mais c'est ça, c'est vraiment ce sentiment-là que j'ai eu.
Steve, bravo encore. Je vous conseille vraiment d'aller voir Le Marchand de Sable. On va écouter la bande-annonce. Juste après, on va revenir avec Moussa Mansali et Ophélie Beau qui vont venir nous rejoindre pour parler d'Aurore et justement et de Joe. Recueillir ses impressions. On va parler aussi évidemment de la morale, la moralité du personnage. On va parler d'Augustine qui m'a beaucoup frappé dans ce film. Merci Steve d'avoir été là.
Merci beaucoup à vous.
Et notre coup de cœur ciné s'appelle donc Le Marchand de Sable. C'est mercredi au cinéma, on écoute.
Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe très souvent et on se demande pourquoi.
C'est qui le patron ?
C'est moi.
C'est toi ?
Je rentre avec Sylvia ce soir.
Elle est là tout le temps en voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon.
Elle s'inquiète pour sa fille.
Salut Joe.
Tantine félicité ? Et tu cherches un endroit où dormir, c'est ça ?
Je sais pas où le mettre.
On va trouver une solution.
Vous êtes combien à vivre ici ?
C'est ma famille ! Je les héberge ! C'est ce qui se passe au pays quand même, non ? Qu'est-ce ? C'est quoi ce délire ? C'est qui ?
Je cherche juste un endroit pour dormir.
Mais il y a des centres pour ça ?
Il n'y a pas de place dans les centres.
Ils ont quitté l'Afrique ! Ils ont quitté la guerre ! Toi, t'es là, tu les fais payer !
Et alors, au début, tu me dis 4 personnes, j'en trouve 20. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop.
Voilà, le film sort mercredi dans les salles, Le Marchand de Sable. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce magnifique film après le réalisateur. Eh bien, on a la chance d'avoir avec nous deux des héros du film, Moussa Mansali qui est avec nous. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Joe dans le film et Ophélie Beau également qui est avec nous. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Qui apporte cette touche féminine également, qui va essayer de remettre un peu Joe dans le droit chemin. Ça va pas être facile. Alors on a planté un petit peu le décor avec Steve. Ce que je disais à Steve il y a quelques minutes, ça a été un vrai coup de cœur pour nous. On a eu la chance de voir ce film d'ailleurs au Festival du film d'Angoulême il y a maintenant quelques mois avant tout le monde. Et on a été bluffé par cette histoire incroyable de Joe qui voit sa tante débarquer comme ça du jour au lendemain avec ses 4 enfants depuis la Côte d'Ivoire et qui va devoir la loger en urgence et va se retrouver pris on va dire dans un engrenage infernal, je crois qu'on peut dire un peu ça hein.
Mmh. Ouais, exactement, c'est exactement ça, vous avez tout résumé parfaitement. Mais à travers toute cette folle aventure, on peut le voir tirailler entre ce besoin de reloger sa tante en urgence et ce besoin de vouloir faire bien et de montrer que c'est un homme bien. Mais il est pris aussi en prise avec tous les problèmes qu'il a, de fait d'être chez sa mère, d'avoir la garde de sa fille alternée qu'il peut pas placer, d'avoir ses gens à reloger. Donc en fait, c'est tout un engrenage dans lequel il essaye de sortir la tête de l'eau, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il se noie dans les eaux profondes en fait.
Comment tu le définirais toi, Moussa, Joe, justement ?
Je dirais qu'il est complexément bienveillant. On sent qu'il y a cette douceur, cette bienveillance, mais on sent qu'il y a cette impuissance et que face à ça, il essaye malgré tout de trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Et c'est ce qui malheureusement... Et je le trouve même... Il a un côté naïf, en fait.
Il bascule sans s'en rendre compte.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour lui, il veut faire bien, il fait bien. Et je pense que, sans vouloir spoiler un peu, mais lui, il vit chez sa mère parce qu'il lui est arrivé quelques galères parce qu'il a rendu service. Et on devine un peu le caractère du personnage en se disant, c'est quelqu'un qui aime rendre service, quelle que soit la raison et quels que soient les moyens.
Il en paye des fois le prix fort.
Il en paye le prix fort. Et on a l'impression que, justement, il essaie d'avoir cette rédemption, de vouloir dire, je veux faire quelque chose de bien, mais inconsciemment, en fait, il rentre dans le même engrenage de ben, je vais rentrer dans des moyens qui sont pas forcément légaux et je vais entraîner tout le monde dans ma chute. J'ai l'impression que c'est un poisson rouge dans un bocal, en fait, qui inconsciemment oublie les mêmes travers et n'apprend pas de ses erreurs et rentre dans les mêmes problèmes, en fait.
Sans forcément s'en rendre compte. Alors, on va parler d'Aurore un peu, Ophélie. Alors toi, même question, comment tu la définirais ?
Aurore, je la vois comme quelqu'un de naïve aussi, dans sa croyance de pouvoir aider le monde entier et sa volonté altruiste d'aider les familles. Et c'est d'ailleurs le métier qu'elle fait.
Travailleuse sociale, voilà. Pour le coup, le personnage d'Aurore est travailleuse sociale et lié évidemment par cet enfant avec le personnage de Joe. Elle apprend pas tout de suite, hein, ce qui fait elle le découvre au fur et à mesure. C'est un choc pour elle, hein, quelque part. Même si elle n'est pas surprise, finalement.
Elle n'est pas surprise parce qu'elle connaît son ex-compagnon et vu qu'il navigue encore dans le même environnement de fréquentation, finalement, ça la surprend pas. Mais cette fois, quand même, elle pensait qu'il aurait fait autrement, qu'il aurait fait mieux. Mais finalement, ce qu'il propose, c'était une solution à ce qu'elle n'a pas pu apporter.
On la sent désarmée par moment, vraiment, Aurore. Elle voudrait tellement aider, même des fois, souvent en dehors des sentiers battus. Et souvent, sa hiérarchie doit la remettre un peu dans le droit chemin en disant « Non, ça, t'as pas le droit, ça, tu peux pas. » Et elle en souffre. On sent qu'elle en souffre, en tout cas.
Bah, elle est très frustrée de se heurter à ce qu'on appelle le protocole. Hein. Oui. Bah, c'est très déshumanisant. Et elle est à l'opposé de ça. Elle a juste envie d'aider. Elle est prête à accueillir chez elle. Elle en souffre énormément. Oui.
Quand vous avez lu le scénario de Steve, tous les deux, vous vous êtes dit quoi, Moussa ?
Je me suis dit que c'était drôlement bien écrit. Et que pour une fois, en fait, enfin, on parlait d'un sujet qui est assez, enfin qui est dans l'air, mais qui est assez tabou en fait. On en parle sans en parler, c'est-à-dire qu'on en parle toujours d'un point de vue extérieur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est du point de vue du marchand de sommeil en fait. C'est vrai que je m'étais posé la question, moi, de me dire comment je vais pouvoir réussir à évoquer toute cette complexité qui traverse le personnage de Joe. Mais je trouvais le challenge très intéressant en fait.
Ça change de la scène, du rap, de la chanson, toi qui es rappeur aussi.
Ça, en fait, ça change dans la mesure où, même dans la musique par exemple, toute cette complexité qu'un personnage peut avoir, on va la retranscrire dans des textes, dans des paroles ou même dans une émotion qu'on va décrire. C'est-à-dire que le fait de chanter ou de rapper, on va la transporter, on va la projeter. Là, dans ce rôle-là, c'était le plus, c'était de l'intérioriser, mais pour la faire transparaître au personnage. Et c'est des émotions que j'avais pas forcément, que j'étais pas forcément été allé chercher dans d'autres films, dans mes autres personnages. Donc là, c'était assez, j'ai dit, le challenge était de taille, mais avec toute l'équipe, avec Steve, en même temps, même les travaux qu'on faisait en amont, qu'on faisait avec Ophélie, ça m'a permis justement de placer le curseur dans la justesse justement du jeu.
Ophélie, toi, à la lecture du scénario, justement.
À la lecture du scénario, c'était. Je me disais que si ce film se faisait, c'était la première fois que j'allais voir un film qui traitait de marchand de sommeil. Donc c'est ce qui m'a plu aussi, c'est de rendre visible un sujet aussi tabou. Après, pour le personnage d'Aurore, c'est quelque chose qui me parlait. J'ai fait des études dans le sanitaire et social, et du coup être confronté à la précarité ou la misère sociale, c'est quelque chose que je connais, et c'est aussi, je pense, pour ça que j'ai aimé le personnage d'Aurore et que je m'y suis identifiée.
Alors, il y a des scènes très très fortes et un personnage clé très fort, c'est celui d'Augustine. On va pas en dire plus pour pas spoiler évidemment, mais c'est très très émouvant ce qui se passe avec ce personnage là à la très peu de dialogue, voire pas du tout, finalement. Cet enfant, elle transpire l'écran, c'est absolument incroyable, rien qu'avec son regard.
C'est ça, en fait, tout se joue dans le regard. Tout se joue dans le regard et dans les échanges de regards qu'elle a avec Joe. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, tous ces regards, ils valent mieux que 1000 mots ou 1000 dialogues, en fait. Je pense que c'est les moments où on a l'impression de rentrer dans quelque chose qui est moins terre-à-terre et qui est même plus spirituel. Dans cet échange.
Et poétique, en fait. y compris à la fin. Voilà, on dira pas plus, mais y compris à la fin, qui est incroyable aussi. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Le Marchand de sable, ça sort au cinéma mercredi. C'est le film à ne pas rater. Je vous le dis, on a beaucoup aimé, nous. C'est vraiment un de nos gros coups de cœur à ne pas manquer de cet hiver. Merci Ophélie. Merci Moussa.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Et on se refait un petit extrait. C'est parti.
Oui, je suis Madame Véran, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille.
Il y a beaucoup plus de familles à reloger.
Tu sais que c'est pas totalement légal, ton truc.
J'ai besoin de cette thune, moi.
Tu as beaucoup de familles, là. T'en as combien sous la main?
Ça arrive tous les jours.
Alors, ton job, là, ça se passe comment?
On visite des apparts.
Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles.
Allez, tout le monde se lève, c'est l'heure de plier bagages.
C'est pas du shit, là, c'est des familles.
T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, encore deux coups de cœur ciné. Le premier consacré à La Belle Étoile, le film de Sébastien Tullard, qui sera là avec Just Riyad, qui seront nos invités. On parlera également du très beau film d'Olivier Payon, Arrête avec tes mensonges. Guillaume de Tonquédec et Guylaine Landais seront donc de retour dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de La Quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.